Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui n'a pas peur de changer, de s'écouter, de s'améliorer, de se développer, quitte finalement à ne pas forcément être comprise par son entourage. Mais voilà, elle décide de vivre pleinement sa vie. On y va pour les détails, vous allez adorer.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Farida Brahim, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella Farida?
Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi?
Ça va, merci. Alors Farida, justement, tu cartonnes sur les réseaux sociaux, notamment pour les formations que tu fais aux femmes, au grand public, sur cette nouvelle tendance qu'est le massage Kobido. Yek?
C'est ça.
C'est
oui,
ça.
C'est juste.
Ok, c'est alors
bien.
On va y aller petit à petit. On va expliquer ce que c'est que ce massage Kobido, comment ça fonctionne brièvement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment toi tu es arrivée à ça. Comment tu es arrivée à devenir la femme que tu es aujourd'hui, à être présente sur les réseaux sociaux, à prendre soin en fait des autres femmes, à les pousser à développer cette beauté naturelle, à stimuler leur collagène, etc. Donc, le Kobido, c'est quoi exactement?
Alors, le Kobido, c'est un massage japonais ancestral.
Okay.
C'est une façon pour moi assez extraordinaire d'aller prendre soin de sa peau de façon holistique. Quand je dis holistique, ce n'est pas galvaudé, c'est vraiment d'aller chercher dans la nature, dans le bon sens, des gestes, des actions qui vont permettre de nourrir sa peau de l'intérieur. Et donc, ce Kobido, il va permettre d'aller synthétiser un peu plus de collagène parce qu'on est quand même rarement massé aussi profondément et aussi intensément pendant une heure au minimum.
Oui.
Donc, ça apporte vraiment ce côté très, très coucouning pour la peau. On va la forcer un petit peu à aller générer, en fait, brièvement dans les cellules. On a des cellules qui, dans la peau, on a des cellules qui s'appellent les fibroblastes. C'est celles qui décident du collagène, notamment, de l'acide hyaluronique aussi et de l'élastine. Et avec le temps, ces cellules, eh bien, elles ont moins envie de travailler. Donc, on les pousse à travailler, et c'est pour ça que le Kobido apporte des bons résultats. Notamment, ce qui est un petit peu différent avec les massages qu'on peut avoir dans les instituts de beauté, qui sont par ailleurs très bien, c'est que ce massage, il est très intense, très profond. On va aller travailler sur l'énergie. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur la peau, mais on travaille aussi sur l'intérieur.
Oui.
Et quand on arrive à aligner les gens, à les décontracter,
c'est ça.
Je pense que c'est là qu'arrive la vraie beauté.
Ça donne envie tout ça, c'est magnifique. Ça donne envie tout ça. Mais tu es arrivée à ça comment justement? Parce que tu as dit c'est une technique japonaise.
Ouais,
donc loin du Maghreb et de la France où tu es née, où tu habites. Voilà, comment tu as découvert tout ça?
C'est une reconversion que j'ai faite il y a à peu près 10 ans. Je t'explique, j'ai eu pendant de longues années des missions très opérationnelles dans les sociétés. J'étais consultante et je m'occupais pas du tout de ces questions-là d'esthétique ou de bien-être ou de bien vieillir, puisque c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui.
C'est le bien vieillir, tout à fait.
Oui, le bien vieillir. C'est pas de l'anti-âge, c'est pas de l'anti-ride. Pour moi, c'est vraiment le bien vieillir parce que je trouve qu'avec l'anti-âge et l'anti-ride, on nous culpabilise déjà. Dans les verbatifs, je trouve que ce n'est pas toujours les bons mots. Alors, pour revenir un petit peu à la naissance de tout ça, moi, j'avais des missions très opérationnelles. Je m'occupais de formation, mais pas du tout dans ce domaine-là, plutôt commercial. Je recrutais, j'étais un petit peu un mouton à cinq pattes. Et puis, il y a quelques années déjà, quand la société dans laquelle j'étais embauchée a fermé à Lyon, au profit de Paris, puisque nos clients étaient très parisiens, je n'ai pas voulu suivre. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi, tiens, c'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a une fin d'activité. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu retournes à ces missions-là ou tu t'ouvres à autre chose? Et puis, j'étais un peu lasse de toutes ces missions-là. Je me suis dit, je voudrais essayer un petit peu d'apporter du bien-être aux gens. Et au départ, je l'ai conçu pour le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai apporté le bien-être dans le monde de l'entreprise, dans le cadre de la QVT, qui est la qualité de vie au travail. Et j'ai passé un diplôme d'État qui s'appelle le PRAP, c'est prévention des risques liés à l'activité physique, où j'allais un petit peu en éclaireur dans les entreprises pour aller contrôler les points de tension Et la sécurité des employés. Puis très vite, je me suis formée à la réflexologie plantaire parce que je croyais beaucoup en cette technique ancestrale aussi. Et évidemment, je suis très influencée par toutes les sources un petit peu asiatiques, chinoises, japonaises. Et très vite, je me suis formée au Kobido. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de proposer des choses un peu inédites et comment aller prendre soin de soi, de sa peau, de son mental de façon naturelle. Et puis après, ça a basculé vers du coaching et de la formation, puisque en fait, je suis un peu une slasheuse. Tu vois, j'aime bien changer. Ouais. Quand j'étais consultante, déjà, ce que j'aimais dans ce métier de consultante il y a quelques années, c'est que comme j'étais un petit peu balancée de société en société, j'avais jamais les mêmes missions, jamais les mêmes collègues, jamais, voilà. Tout était toujours en mouvance. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai commencé par la QVT, la qualité du travail. Puis je me suis dit, je vais travailler avec les praticiens du bien-être, les spas, les instituts. C'est ça qui m'a conduit finalement à multiplier des contacts, à voyager, à venir aussi au Maroc pour former les équipes. Et c'est ces rencontres-là qui m'ont nourrie. C'est cette transmission que j'aime. Travailler avec les femmes aussi, moi, j'aime beaucoup. Je me sens très, très à l'aise. Et puis, surtout, de me sentir utile. Ça, vraiment, c'est ce qui m'anime aujourd'hui.
Alors, je t'ai laissé nous expliquer tout ça, nous le raconter, en fait. Mais là, on va un petit peu creuser un peu plus parce que chaque changement, chaque étape, j'imagine, parce que toi, quand tu racontes, on a l'impression que tu tournes des pages, alors que pour tourner chaque page, ça devait, j'imagine, prendre beaucoup de temps, de réflexion, de courage. Mmh. En temps voulu. Alors, la boîte décide de fermer à Lyon. Elle te propose de la rejoindre à Paris. Mmh. Toi, tu dis non. C'est le moment pour moi de passer peut-être à autre chose, de vivre autre chose. Lâcher le monde du conseil, du consulting, avec, entre guillemets, son prestige, ses privilèges, etc. Mais bien sûr aussi sa galère. Mmh. Et donc, lâcher une position pour aller vers autre chose. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Tu avais quel âge à ce moment-là?
Eh bien, j'avais 40 ans.
Ok.
Puisque j'en ai 50 aujourd'hui.
D'accord. Donc, tu associes cet événement à la Providence ou à la crise de la quarantaine?
Non, je ne pense pas que ce soit la crise de la quarantaine. Je crois que c'est la Providence. Je pense que tu as bien choisi le mot. Ça s'est passé comme ça. Je n'avais pas tellement décidé. Tu sais, j'étais bien dans cette entreprise quand même. Et puis, je pense que tu as bien résumé les choses. J'avais une certaine forme de prestige. J'étais cadre dans une entreprise, je voyageais déjà pas mal, je faisais un petit peu la fierté autour de moi, tu comprends ?
La maghrébine qui a bien réussi.
Oui, ne serait-ce que par le regard de ma maman.
Ouais.
C'est la base, quoi. Voilà, donc bien installée dans la société, dans sa famille, etc. Donc j'avais ça. Et puis... Et si je veux être honnête quand même avec toi et avec les auditeurs, ça n'a pas été si simple, évidemment, je crois, de switcher. Même si je l'ai fait rapidement, et je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me poser des questions et rester trop longtemps figé sur des questions et sur des choses à faire. Mais quand même, il s'est posé quand même cette question de « tu vas passer d'un truc à un autre qui est complètement différent, enfin, il n'y a pas de lien ». Et même autour de moi, j'ai vu que ça avait généré beaucoup d'interrogations. Et pour certains, même encore plus, j'ai vu que ça avait un peu dévalorisé qui j'étais, ce que je faisais. Je passais de quelque chose pour eux de prestigieux à de la réflexologie, même si c'était en entreprise.
Mais toucher les pieds des gens quand même.
Ouais, exactement, exactement. Ça paraissait pas très sérieux, très, voilà, pas très honorant, on va dire, et honorable. Et du coup, j'ai dû me dire, bon, écoute, ça, c'est leur perception, c'est leur vision. Moi, j'ai un projet dans mon esprit. Si je veux former plus tard, il faut que je sache de quoi je parle, donc je ne vais pas arriver directement en qualité de formatrice, il faut que je me confronte aussi à la réalité, aux difficultés, aux séances, à tout ça, et puis que je développe aussi une certaine forme de maturité, de dextérité, d'assurance, et puis très vite je vais être rattrapée, si tu veux, par mes missions anciennes, c'est-à-dire le fait d'aller vers la formation, la transmission, etc., parce que c'est ce qui m'intéresse. Et puis, ça donne peut-être un petit peu plus de sens à mon travail. C'est vrai, il faut le dire aussi. Ça donne peut-être un peu plus de consistance. Ça peut rassurer certaines personnes, mais moi, je m'en fiche un peu. J'ai, en tout cas, la quarantaine. Ta question est très, très intéressante. C'est la providence, mais c'est aussi l'affirmation. Tu vois, je me fiche maintenant de ce que vous pensez. du bien-pensant. J'ai décidé de faire ce choix. Tant pis s'il ne vous convient pas. Tant pis si vous me regardez un petit peu avec des yeux ronds en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie ?» Elle aurait pu continuer à, voilà, à rechercher quelque chose dans son domaine. C'était tout à fait bien. Tant pis. Et je crois que c'est à la quarantaine que je me suis affranchie de tout ça.
Mais affranchie du regard de l'autre. Quand tu dis le regard de l'autre, affranchie du regard de qui en particulier ?
Oh, peut-être plus de la famille.
Oui.
Peut-être plus de la famille et dans un second temps, même la société. Et même, je vais te dire, dans un troisième temps, même quand tu es en société, effectivement, et que tu discutes de ton travail, ça peut aussi amener quelques interrogations. Il ne faut pas se leurrer, mais les gens nous jugent aussi par rapport à
ce qu'on fait, travail, en fait, un autre job.
Voilà.
Ouais.
Exactement. Donc, tu as beau y mettre beaucoup de sens et d'investissement, etc., et d'intention, tu n'es pas toujours non plus vu comme ça. On peut te dire, oui, bah, c'est une masseuse des pieds.
Il ouais,
y a des raccourcis comme ça qui sont très, très librement. Et c'est vrai que je pense qu'à 30 ans, je n'étais pas préparée à ça. Je ne voulais pas ça parce que de toute façon, j'aimais bien mon costume de working girl, tu vois, à 30 ans. J'aimais bien ça. J'aimais bien sauter d'un TGV à l'autre avec mes talons de 7 cm et courir. Et tu vois, avec mon... voilà, j'aimais bien cette vie-là et je me sentais pleinement accomplie comme ça. Et tu m'aurais dit, bah, tu vas faire ça, je t'aurais rayonné. Donc, la vie m'a appris que finalement, oui, j'ai passé des étapes. Elles n'ont pas été douloureuses, mais elles ont été importantes à... Je pense que chaque étape de ma vie m'a préparée à la suivante. À 30 ans, je n'étais pas prête à ça. À 40 ans, il y a eu cette espèce de providence. Voilà, c'est une mektoub, on peut appeler ça comme on veut. C'est tombé comme ça à ce moment-là. J'ai saisi cette opportunité en me disant, de toute façon, qu'est-ce que je risque au pire, ça ne marche pas. J'ai pas un investissement énorme non plus. Je veux dire, j'achetais pas des choses très très chères. Hein. J'achetais le prix de ma liberté. Et j'avais plus envie d'être dans la société, l'entreprise telle que je la connaissais, avec son lot de stress. J'avais plus envie des talons de 7 cm, en fait, je crois.
Mais en même temps, quand tu dis l'occasion s'est présentée, je l'ai saisie, mais tu m'aurais posé la question quelques années avant, je t'aurais ri au nez.
Oui.
C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui faisait que tu basculais plus vers la possibilité de changer, en fait. Et en général, c'est un shift qui se passe à l'intérieur de soi et qu'on ne peut plus ignorer au bout d'un moment.
Oui, oui, mais je crois que c'était lié à la lassitude de mon métier. Voilà, je crois que je n'étais pas du tout abîmée parce que c'est un beau métier et que j'avais des missions variées, diverses. Mais tu comprends, moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Donc, du coup, au bout d'un certain nombre d'années, j'avais le sentiment, ce qui était juste ou faux, je ne sais pas, mais j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de tout ça. Et la hiérarchie, même si je la subissais moins que les autres parce que j'étais ballottée d'une entreprise à l'autre, donc j'étais suffisamment avec eux, mais pas trop. Et donc, j'avais quand même cette forme un petit peu de liberté. C'est pour ça que de passer, en fait, finalement, de salarié à freelance, à indépendante, ne m'a pas fait peur parce que j'avais déjà le sentiment de me gérer, moi, à l'époque.
De ne pas appartenir à une structure, en fait.
Ouais,
de ne pas avoir une routine, des collègues proches, etc.
Oui, j'avais pas ce poids de, tu sais, de la machine à café avec les cancans, les machins. C'est pas que ça l'entreprise,
mais c'est
tout ça. Et donc, et puis j'avais plus envie de ça. Et à l'époque, je disais, même si je le subissais moins que Madame Tout le Monde, qui était ancrée dans une société, moi qui étais ballottée, je le subissais un petit peu quand même, parce que quand tu passes entre 3 et 6 mois avec des gens, bah, au bout d'un moment, tu fais partie un petit peu des leurs, et puis tu portes un maillot. Quand tu es dans une entreprise, hein, voilà, il faut aussi que tu épouses les codes. Et je crois que je n'avais plus envie de ça. J'avais envie de m'affranchir tout ça et de faire les choses à ma façon. Mais il me fallait un peu de maturité. Et en même temps, je comprends qu'il y a des gens de 20 ans qui commencent comme ça.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, en fait.
Oui, c'est ça. Les choses sont différentes. Elles nous poussent à beaucoup plus entreprendre, investir, prendre des risques. J'ai quand même été éduquée dans ce schéma où ce n'est pas qu'on fait les choses de façon lisse, mais... C'est un peu normal, on fait des études, on se marie, on a un bon travail, si on est secrétaire, c'est génial, quoi. Tu vois, voilà. Tu vois, c'était le truc un peu tout lisse, tout propre, ça déborde pas. Et puis, j'ai quand même un peu cassé les codes parce que déjà, je changeais tout le temps et c'est vrai que mes parents ne comprenaient pas à l'époque, quand j'étais plus jeune, pourquoi je n'étais pas fixée quelque part. Mais je crois que je n'ai jamais voulu me fixer quelque part, j'avais ce goût de la liberté et de la découverte et aussi de la découverte des autres. Et c'est cette façon de travailler en qualité de consultante à droite à gauche, qui m'a permis d'avoir cette capacité d'adaptation et pouvoir switcher très vite d'un truc à l'autre.
Mais, c'est bien. Mais en même temps, aujourd'hui, Farida, c'est aussi une entreprise, c'est une vraie entreprise, c'est plus YEC. Des fois, tu portes ces fameux talons à 7 centimètres.
Oui, c'est vrai. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes et j'ai des enjeux qui sont aussi très différents. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens derrière moi qui comptent sur moi, qui je dois faire monter des gens en compétences, soit sur le plan plus technique de la gestuelle du Cobido, soit aussi les accompagner sur le développement de leur activité. Il y a deux offres un peu distinctes, mais finalement qui se cumulent bien, c'est-à-dire que soit je forme quelqu'un sur de la gestuelle, pour qu'elle puisse proposer dans son institut le Cobido, soit je vais accompagner des spas ou des praticiennes à aider à mieux se visibiliser, à mieux communiquer sur leurs offres, à mieux positionner leurs tarifs, voilà, manager leur équipe, c'est ce que je fais aussi. Et donc, c'est des gros enjeux. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que finalement, je crois qu'aujourd'hui, alors là, on est en 2025, mais en 2024, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais besoin d'apporter un petit peu plus de cérébral.
Je comprends.
Je crois que c'est ça, en fait.
Ouais.
Pendant très longtemps, je me suis laissée porter très gentiment à ce que je faisais, et ça m'allait très bien, j'avais de bons résultats. Et tu vois, de la même façon comme il y a quelques années, où je me suis dit, je commence à être un petit peu lasse, en avoir marre de ce travail de consultante, je voudrais faire autre chose, j'ai trouvé cette voie-là du bien-être. En 2024, je commençais à m'interroger sur moi en me disant, est-ce que tu es vraiment très alignée toujours avec ce que tu fais?
Oui,
d'accord, mais pourtant tu dis oui, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui gratouille.
Il y a un vide, il y a un manque.
Tu dis oui, mais est-ce que c'est un vrai oui? Et en me questionnant comme ça, parce que moi je questionne les gens aussi comme ça, donc il faut aussi savoir se le faire, se questionner. Et je me suis dit, mais oui, mais qu'est-ce qui te manquerait? Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Non, j'ai pas envie de faire autre chose, mais je voudrais faire les choses différemment. Je voudrais apporter un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'accompagnement, pas que holistique, mais aussi cérébral, stratégique, de développement. C'est ça que je... Et donc, là, je me sens à nouveau pleinement dans mes missions. Mais tu sais, peut-être que dans 5 ans, je te dirai autre chose.
Mais c'est fou parce que, tu sais, il y a... il y a quelques jours, la semaine dernière, je discutais avec une jeune femme, Fatem Zahra Touzani, et elle me disait, en fait, il faut accepter, parce qu'on a tendance à penser que quand on fait un switch dans sa carrière, dans sa vie, ça fait, tu as droit à une carte en fait, tu as le droit à un changement, alors qu'en réalité, eh bien, il faut juste accepter de pouvoir faire autant de changements que qu'on le souhaite et au besoin et selon en fait les étapes de la vie. Et avec toi, c'est magnifique parce que tu l'incarnes complètement. C'est une décennie entre 40 et 50 ans, une décennie où tu as vécu plusieurs changements selon tes besoins. Mais cette connexion à toi, je ne connais pas beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui l'ont en fait. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de se connecter à ses besoins et de ne pas avoir peur de ses besoins et de ne pas avoir peur en fait d'être jugé pour satisfaire ses propres besoins.
Oui, c'est vrai. On vit dans une société où on est constamment jugé. Et puis maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, où tout est jeté un petit peu en pâture comme ça, où on observe l'autre, on a vite des jugements aussi hâtifs parfois. On a le jugement parfois de notre propre cercle.
Oui, parce que surtout, ce qu'on entend, c'est « Marzenech, mes chers Zena, elle n'arrête pas de changer, elle n'arrête pas de... Elle ne sait pas ce qu'elle veut. »
Oui, voilà. Elle ne tient pas en place. Et ça peut renvoyer une image finalement de quelqu'un d'instable.
Ouais.
Le mot est peut-être un peu fort, mais tu vois, tu m'as compris.
Complètement.
Pas très ancré en fait, pas très ancré. Alors que moi, au contraire, je suis à l'écoute de ce que j'ai envie de faire. Et si dans 2 mois ou 2 ans, j'ai envie d'aller m'essayer à tout à fait autre chose, je le ferai. Et confidence pour confidence, puisque j'aime beaucoup t'écouter, j'aime beaucoup ton podcast.
Merci.
Et je te suivais déjà et je suis très honorée de discuter avec toi. J'ai envie aujourd'hui de faire autre chose, mais qui ne va pas annuler ce que je fais aujourd'hui. En parallèle, je crée un podcast.
Super.
Et je vais te dire une chose, c'est la première à qui je le dis, et donc tu ne seras pas la seule. Hein, puisque
avec toute notre communauté de femmes d'aujourd'hui. Oui, super.
Mais voilà, je ne l'ai même pas encore annoncé à ma communauté, partiellement à ma famille, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est très juste, tu es une bonne psychanalyste, peut-être sans le savoir, mais encore une fois, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est encore cette idée? Qu'est-ce que c'est encore que cette idée? C'est quoi cette idée de podcast? Eh ben, moi, j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai un message à donner aux femmes, je crois que ce serait oser. Oser prendre des risques, oser trouver votre voie. Soyez courageuse dans vos choix. Si vous avez envie de faire des choses, bah, faites-les. Puis si ça marche, bah, c'est génial. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Moi, on parle des réussites, mais j'ai eu plein de défis et plein d'échecs. J'ai eu plein de fois où des choses, elles ne se sont pas passées comme on veut. Sur les réseaux sociaux, tu es d'accord avec moi, on montre bien ce qu'on a envie de montrer.
Bien sûr, ben, oui, c'est un média, c'est un canal.
Et sauf que je crois que les gens ont besoin de voir aussi ce côté vulnérable, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent s'identifier à nous. Si on montre que des choses magnifiques et tout se passe bien, on va frustrer un peu l'autre, alors que ben on est comme les autres. On a des échecs, on a des réussites, on a des revers, on a des défis, on a des désillusions. Parfois ça se passe très bien. Moi j'ai cette alternance depuis toujours, avec des périodes où tout se passe très bien, au beau fixe, et puis après, il y a une zone de pluie comme ça, et j'ai appris, si tu veux, pas à danser sous la pluie, j'irai pas jusque-là, mais j'ai appris à me dire, bon, ben en ce moment, c'est pas une période hyper ensoleillée, je le sais, ça arrive parfois.
Je fais le dos rond.
Ouais, je danse pas pour autant, hein, je vais pas te mentir, mais bon, je me dis, je sais que ça va passer. Je sais que ça va passer, il y a une forme de résilience.
En parlant justement de vulnérabilité, qu'est-ce que ça t'a coûté d'entamer ce changement ?
Ça m'a coûté dans un premier temps une stabilité financière à l'époque, mais ça, je m'y étais préparée. Je savais que j'allais plus avoir les mêmes moyens.
Oui. Quand tu dis je m'étais préparée, c'est-à-dire psychologiquement ou même.
Oui, je m'étais préparée psychologiquement.
Tu acceptes en fait, que ça, voilà, qu'il n'y a pas de salaire pendant une période.
Exactement. Ouais. Et qu'il fallait que je bidouille. Hein. J'étais dans le bidouillage au départ et puis avec tous les débuts qu'on connaît. J'ai eu cette chance, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais. Peut-être, je ne sais pas. J'ai eu ce truc, ce déclic où ça a très vite fonctionné. Je n'ai pas galéré. Je pense que Rabbi m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et j'ai eu tout de suite, très vite, ça a fonctionné, ça a marché. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Mais j'ai eu une clientèle très rapide. J'étais full très rapidement. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, aujourd'hui, qui accompagne les praticiennes, je ne veux pas leur raconter que des histoires. Ce n'est pas parce que pour moi, ça avait fonctionné comme ça. C'était aussi peut-être un moment. Il y a eu un moment peut-être dans cette décennie où c'était peut-être plus simple. Donc, je sais qu'il y a des défis aussi aujourd'hui qui sont économiques et de visibilité. Et je sais que certaines personnes galèrent. Donc, je les accompagne aussi dans ce sens. Mais je me rends compte que ça a été quand même assez rapide pour me sentir à l'aise, on va dire.
Et tu as très vite compté sur les réseaux sociaux pour te faire connaître ?
Oui, tout de suite.
C'est vrai ?
Oui, tout de suite. En fait, à l'époque, c'était Facebook.
Oui, bah oui, il y a 10 ans.
Ouais. Et bah oui, hein. Je suis plus toute jeune, donc.
c'est Instagram qui n'était pas encore né. C'est pas toi qui n'étais pas toute. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Oui. J'étais à fond sur Facebook et ça marchait fort. Ça marchait bien. Ça marchait très très bien. J'ai fait ma clientèle de. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, il va falloir que tu investisses dans une publicité, dans une communication digitale pour te faire connaître, alors quelle qu'elle soit, digitale ou autre. Hein. Il va falloir qu'à l'époque, on n'avait pas ces réflexes qui suivent digital. Hein,
complètement, complètement.
Voilà, publicité. Mais bon, je me suis dit, bah, peut-être faire quelque chose pour payer, pour te faire connaître. Et finalement, bah, Facebook a fait le travail, m'a déployé sur les réseaux et m'a constitué ma clientèle avec, effectivement, une stratégie que j'avais mise en place. Tu vois que je n'avais pas conscientisé à l'époque, j'étais très régulière et je savais qu'il fallait que je tabasse un petit peu en termes de publication, que j'intéresse les gens, que je les éduque aussi par rapport à ça, parce que ce n'était pas non plus évident. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être pour me rétribuer, tonton l'algorithme a dit bah, « celle-là, on va la mettre en avant sur l'Explorer » et ça m'a généré presque 2 millions de vues. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai été, que mon compte a basculé parce qu'il stagnait aussi. Et donc, je sais qu'il y a une force de frappe sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger quand on veut être visible.
Absolument. Bon, en tout cas, Farida Brahim, merci infiniment pour ce avec beau plaisir. Moment que tu m'as fait passer. Mmh. Vraiment. Pour cette belle connexion, cet échange. Et voilà, merci infiniment au nom de toute la communauté. Bienvenue à toi au sein de notre communauté de femmes d'aujourd'hui. Et tu pourras compter sur moi et sur nous pour ton podcast si tu as besoin de quoi adorable. Que ce soit. Je pense que tu as toutes les qualités pour. Tu as une voix très douce, très agréable. Tu as une expertise, tu as une empathie, tu as une histoire de vie. Mais voilà, si tu veux que... recommande des femmes marocaines, voilà. Donc, je suis là pour toi.
Je suis honorée.
Je ne peux qu'être là pour toi. Merci beaucoup, Farida Brahim, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci à toi. Merci. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.